Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Avez-vous déjà entendu parler de la constellation animale ? La constellation familiale permet d'explorer les dysfonctionnements du système familial. Dans la constellation animale, on inclut l'animal en tant que sujet. Il peut être soigné ou aider un autre membre de la famille. Pour approfondir ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Rigal, vétérinaire et psychopraticienne formée aux constellations familiales. Elle est l'auteur de « L'animal guérisseur de la famille » à la découverte de la constellation animale parue aux éditions Le Souffle d'Or. Elle nous y présente sa vision du monde et son protocole de constellation animale. Chacun pourra se reconnaître et faire évoluer sa façon d'être avec les animaux. Bonjour Catherine et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Sophie, merci beaucoup à vous de me contacter et de m'offrir cette rencontre.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené du métier de vétérinaire à la pratique de médecine alternative ?
Alors ça, c'est une question que je trouve intéressante parce que c'est pas forcément la question qu'on me pose souvent. En fait, ça me fait un petit peu réfléchir à mon parcours. En réalité, moi je suis fille de vétérinaire. Alors le pourquoi j'ai voulu être véto, sans doute pour ressembler à mon papa, pour faire comme mon papa, pour être avec mon papa. Voilà, il y a tout ça très certainement. Et puis il se trouve que arrivée à l'école véto, j'ai appris l'allopathie comme tout le monde parce que dans l'école vétérinaire que j'ai fréquentée, je crois que ça n'a pas énormément changé à l'heure actuelle, on nous a essentiellement transmis l'allopathie. Alors avec moins de méthodes d'analyse que ce qu'on propose aujourd'hui hein, aux jeunes vétérinaires, et je crois que c'était un bien pour nous parce que on nous a quand même laisser développer notre ressenti, notre contact avec l'animal, notre évaluation de l'animal en dehors d'une lecture d'analyse, comme ce qu'on peut voir faire par les médecins à l'heure actuelle, qui regardent plus souvent leur ordinateur que leurs patients. Et donc, j'ai eu quand même cette chance-là de faire partie encore des gens à qui on apprenait à servir d'un thermomètre et d'un stéthoscope. Et à se débrouiller avec ça. Alors, bien sûr que les analyses ont commencé à exister, hein, les prises de sang, les bilans sanguins, etc. Mais en clientèle de base, c'était encore du grand luxe. Hein. À l'époque, on faisait une prise de sang, on l'envoyait au labo d'à côté du Maine, et puis c'était la directrice du labo qui nous expliquait, qui nous aidait à analyser un petit peu et à comprendre ce qu'il en était. Quoi. C'était vraiment les prémices. Hein. C'était à ce moment-là. Et en fait, on a eu, alors je dis on parce que je parle là à ce moment-là pour un groupe de 4 vétos, les quatre jeunes vétérinaires que nous étions avec ma meilleure amie et nos conjoints, et avec qui nous avions un projet d'installation ensemble. Et avant ce projet, en quatrième année, il se trouve que à la fac, dans notre amphithéâtre, l'amphi d'honneur, il y avait certains vendredi soir, j'imagine, hein, mais je suis pas certaine, des cours d'homéopathie uniciste qui étaient proposés à des médecins dans le cadre de notre école, ce qui était d'ailleurs assez drôle parce que l'école Véto de Lyon, elle est à vol d'oiseau, au moins 10 km du centre de Lyon et de la fac de médecine notamment. Et donc, c'était proposé aux médecins intéressés, certainement aux pharmaciens, à des vétérinaires, j'imagine, mais je suis pas certaine qu'il y en avait beaucoup qui venaient là. Et nous, en tant qu'étudiants, on avait le droit de venir voir. Et là, ça a été passionnant de voir ces gens qui présentaient cette approche-là. J'ai pas souvenir d'être allée de très nombreuses fois, hein, mais ça a vraiment fait germer en nous une envie de d'autre chose que l'allopathie. On n'avait pas encore expérimenté ça vraiment en tant que praticien, mais c'est vrai que moi je me dis aujourd'hui, mais comme c'est réducteur que d'être allopathe finalement, parce que on a à notre disposition des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des antipyrétiques. Bon, alors ils ont pas tous le même nom, on peut varier un peu, puis en fait on est quand même très vite limité. Et l'homéopathie uniciste, c'est d'aller chercher le remède qui correspond à l'individu. Hein, parce que c'est très pointu, on va prendre l'ensemble des symptômes de l'individu et on va chercher la plante, le remède homéo, parce que c'est pas toujours des plantes, hein, ça peut être aussi des minéraux, ça peut être des produits, même quelquefois des produits chimiques. Hein. Chocolat existe en matière médicale à l'heure actuelle. Hein. Bon, c'est un remède récent, mais ça existe. Et le remède qui va avoir les symptômes qui correspondent le plus, qui va résoudre les symptômes qui correspondent le plus à l'individu que nous avons en face de nous. Donc, ça demande une recherche, ça demande une observation, ça demande quelque chose où on va vraiment rentrer dans quelque chose d'intéressant et de très holistique. Hein. Et je pense que ça a éveillé chez nous quatre une envie. Non. Alors, qui s'est concrétisé par le fait de lire des bouquins, de suivre des formations d'homéopathie, mais ces formations, elles étaient toutes destinées à des médecins, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation destinée aux vétos. Là, aujourd'hui, on est loin de cette époque-là. Hein. Nous, ce qu'on a fait, c'est de transposer les symptômes qui existaient chez les humains à nos animaux, donc essayer de voir qu'est-ce qui collait le plus. Et dans les matières médicales, il y a tout un grand chapitre qui s'appelle Mind, puisque c'est un Anglais hein, qui a beaucoup travaillé tout ça. Et dans le Mind, eh ben c'est toutes les pensées, toutes les idées, les idées noires, tout ce qui torture les gens. Et là, ben nous, on était un peu marrons avec nos chiens et nos chats, voire avec les vaches en plus, parce qu'effectivement, ça n'avait pas, on n'arrivait pas à transposer. Alors on essayait de temps en temps de trouver des symptômes mentaux. Hein, d'ailleurs, une de nos formatrices homéopathes me disait, mais oui, de toute façon, vous les vétos, vous voulez toujours trouver des symptômes mentaux. Alors que les médecins, ils essayent de coller aux symptômes physiques pour pas se laisser embarquer dans le mental, en fait, et dans le discours de leur client. Donc ça fait partie des choses. Donc c'est un peu comme ça. Et puis, de fil en aiguille, dans notre pratique, on a attiré des gens un petit peu différents. Alors bien sûr, hein, inutile de vous dire qu'on s'est pas installé en 85 à Arbois, petite ville de 3 000 à 4 000 habitants, en étant vétérinaire homéopathe, hein, parce qu'on a quand même on avait besoin de manger. Mais tant que ça a été possible, ben, on a essayé d'utiliser ces techniques-là. Et puis progressivement, ben, y a des personnes qui nous ont amené d'autres choses. Ça nous a ouvert aussi de l'appétit sur la phytothérapie. Et puis progressivement, hein, alors ça au moins 10 ans après notre installation, peut-être même un peu plus, vers des techniques manuelles, hein, notamment l'ostéopathie. Et en ce qui me concerne, ben, ça a été le soin énergétique, qui était encore moins de mise chez les vétérinaires, puisque moi je l'ai appris avec une magnétiseuse et aussi avec mon formateur en psychothérapie transgénérationnelle et transpersonnelle surtout. Et donc là c'était un peu particulier, puisque c'était sans contact avec l'animal, donc c'était un peu limité par rapport aux clients capables d'accepter que leur vétérinaire fasse du magnétisme sur leur chien. Mais voilà à peu près comment ce passage-là s'est fait, hein, sachant que le glissement entre vétérinaire et praticienne en psychothérapie, pour les humains, comme je le rajoute souvent, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des gens qui sont psy pour animaux, le glissement s'est fait par la faveur d'une grosse dépression me concernant, hein, qui m'a amenée à chercher des solutions d'abord pour moi, et puis rencontrer le docteur Perrin, qui était médecin interne en psychiatrie et qui proposait une formation de psychothérapeute à l'époque, qui durait 2 ans et au bout de laquelle j'avais pu acquérir les bases de la psychologie humaine et les outils du transpersonnel. Et puis bon, ensuite, à partir de 2004, eh bien, j'ai rencontré les constellations familiales et là, j'ai vraiment eu l'impression de trouver quelque chose qui me permettait de donner du sens à tout ce que j'avais appris jusque-là, tout ce que j'avais rencontré. Ça a été un grand bonheur quelque part.
Et justement, en 2009, vous avez raccroché la blouse de praticienne pour vous consacrer notamment aux constellations animales. Comment pourriez-vous les définir par rapport justement aux constellations familiales ?
Alors, la constellation familiale concerne les individus de la famille. Hein. C'est un outil de thérapie, hein, en réalité, un parmi d'autres, mais qui pour moi a, je dirais, un plus. Hein, ce que je vois de vraiment important dans la constellation familiale, c'est que c'est quelque chose qui permet d'arriver à une pacification des mémoires et des émotions qui sont là. Alors, tout ça passe par différentes techniques, hein. Bon, ça c'est le propos du thérapeute et d'une formation de thérapeute éventuellement, mais le résultat, c'est que effectivement on se retrouve en paix avec les événements à l'origine des troubles qui sont les nôtres, et ces événements-là, pour moi, en tant que véto, parce qu'inutile de vous dire que c'était un peu compliqué quand même, hein, d'accepter en tant que vétérinaire rationnel, hein, qu'il pouvait y avoir des choses totalement irrationnelles qui se passaient et que c'était moi qui en étais génératrice, quoi, en fait. Hein, ce qu'on appelle l'inconscient familial ou l'inconscient collectif en psychothérapie, et que d'accord, mais c'est où l'inconscient ? Alors, ça se tient où dans l'individu, ce truc-là ? Et donc, ça, c'est une question que j'ai beaucoup creusée pour moi, en fait, hein, parce que j'avais besoin de me rassurer, tout simplement, de comprendre. Et aujourd'hui, après avoir pas mal cherché dans différents domaines, hein, je crois vraiment que c'est au niveau de l'ADN que tout ça se tient. Alors, vraisemblablement plutôt au niveau de l'épigénétique, c'est-à-dire toutes ces molécules qui entourent la molécule d'ADN dans le chromosome et qui sont là pour permettre à certains gènes de s'exprimer ou pour réprimer cette expression. Et lorsque on va faire de la paix, on va en quelque sorte faire bouger l'épigénétique, donc on va modifier l'ADN. Et du coup, on va se retrouver en paix avec l'ADN, les chromosomes, peut-être ce serait plus juste de dire les chromosomes qui nous constituent. Et qui suis-je à part, en tout cas dans mon incarnation d'aujourd'hui, à part l'expression totale de tous ces chromosomes et de tout ce qui est inclus dans ces chromosomes. Ce qui fait que vraiment, moi je trouve, et là c'est ma démarche personnelle pour le coup, que cet outil-là est un outil de paix intérieure et de paix avec tout ce qui nous entoure, qui a une telle puissance que franchement ça donne envie de le développer et de le partager. Et au niveau de mon point de vue par rapport à l'animal là-dedans, Non, c'est que finalement, on se rend compte, alors en tant que vétérinaire, les animaux que j'ai eu à m'occuper m'étaient essentiellement des animaux de compagnie. C'était en milieu rural, hein, une petite ville, mais malgré tout, mon travail à moi, c'était plus ce qu'on appelle la canine. Donc les chiens, les chats, éventuellement les furets de temps en temps, les hamsters, etc. Et du coup, des animaux qui ont une relation particulière avec les humains. Non pas que les agriculteurs n'aient pas des relations particulières avec leurs animaux. Non. Et d'ailleurs, la constellation animale est tout à fait transposable avec des animaux de rente. Non. J'ai d'ailleurs des confrères qui travaillent pour l'instant pas trop en constellation famille animale, mais à cette à améliorer la qualité de l'approche des humains envers ces animaux de rente, hein, qu'ils élèvent pour être abattus, pour produire du lait, pour produire de la laine éventuellement, etc. Et on a vraiment tout intérêt finalement à ce que nos animaux soient bien accompagnés, parce que ils nous le rendront très volontiers par une bonne production. Et des animaux qui vont être destinés à la boucherie et qui seront accompagnés de façon humaine, enfin en tout cas ce qu'on dit humain d'habitude, hein, ces animaux-là, ils vont avoir moins de toxines dans leur viande. Hein. Donc, de toute façon, nous, en tant qu'humains, on va aussi y gagner de ce côté-là. Alors que des animaux stressés vont développer des tas d'acidité dans le corps, hein, et du coup, effectivement, faire des viandes qui sont difficiles à digérer, qui n'apportent pas, qui ont beaucoup plus de déchets que de choses intéressantes. D'un point de vue alimentaire et nutritif.
Et justement, dans votre ouvrage « L'animal guérisseur de la famille » paru aux éditions Le Souffle d'Or, vous dites avoir constaté des similitudes entre pathologie de l'animal et pathologie de son maître. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ?
Alors ça, c'est ce qui est à l'origine finalement de cette idée de la constellation animale. Parce qu'effectivement, pour des raisons que j'ignore encore. Hein. Peut-être que quelque part dans l'univers, il était écrit qu'il fallait que j'aille à la constellation animale, hein, je ne sais pas. Mais j'ai eu rapidement l'attention vers ces similitudes. Alors, l'homéopathie uniciste, ça aide pour ça. Parce que quand on est dans une consultation pour un chien, par exemple, en homéo uniciste, on va interroger les propriétaires, on va d'abord examiner l'animal, etc. Et puis ensuite, on va s'asseoir face au propriétaire. Hein. Alors maintenant, on dit au gardien, mais à l'époque, moi, je disais propriétaire. Et interroger la personne sur qu'est-ce qui se passe autour de cet animal? J'ai une amie, enfin une ancienne cliente devenue amie depuis, qui me disait, mais tu as été la première véto à qui je présentais ma chienne qui se grattait et qui m'est demandé, mais qui c'est qui se gratte dans la famille? Et effectivement, au bout d'un moment, je m'étais rendu compte que, particulièrement quand il y avait des démangeaisons sur un animal, c'était assez régulier que les humains se démangent. Alors, hormis le contexte, bien sûr, et ça, on est obligé en tant que véto de poser ces questions-là, hein, puisque si on suspecte une teigne, si on suspecte une gale, les gales du corps, ce qui est quand même très rare, hein, en fait, effectivement, il est important de savoir s'il y a eu contamination humaine. Mais au-delà de ces pathologies qui sont réellement, qui sont des zoonoses et qui sont transmissibles aux humains, il y a des similitudes, et notamment le chien à eczéma, dans la famille, il y avait une personne, le père, le fils, quelqu'un qui se démangeait, ou la dame d'ailleurs qui était là avec le chien. Hein. Et c'était toujours très intéressant de poser ces questions-là. Et puis, au fil du temps, eh bien, il y a eu vraiment des approches, enfin, une multiplication plus exactement de ces similitudes. Jusqu'à d'ailleurs un exemple que je cite d'ailleurs dans le livre, hein, où de cet homme qui nous avait, qui savait qu'on faisait de l'homéopathie et qui était venu vraiment en dernier recours, hein, nous amener son chien pour qu'on lui trouve un traitement. Alors ce monsieur venait de très loin, il nous présente le chien, il nous dit ben voilà, je vous laisse regarder, vous allez me dire. Et moi j'examine le chien et je palpe, alors bon, je l'examine en entier. La seule chose que je trouvais qui est particulièrement étrange, c'était qu'à la palpation abdominale, je ressentais comme si les muscles avaient disparu par rond, hein, par tache, comme ça, arrondi, hein, de la taille de pièces de 5 francs, ça situe un peu la période. Mmh. Et en fait, je ne voyais pas du tout quel nom de pathologie mettre là derrière. Alors, je suis allée chercher mon confrère qui était par chance de l'autre côté dans le bureau, qui est venu, qui a examiné. Il me dit, bah oui, je sens la même chose que toi. Et on se tourne vers ce monsieur, on lui dit, bah écoutez, voilà, on perçoit un truc très bizarre, on ne sait pas vous l'expliquer, mais voilà, cette impression de dégénérescence, etc. Et le monsieur se tourne et dit, je sais, j'ai la même chose et les médecins m'en ont donné pour 3 mois. Alors là, bon, il y a eu un blanc, hein, parce que
forcément,
on s'est retrouvé très démunis. Bon, on a fini par prescrire un remède OBO. On n'a jamais eu de nouvelles ni du monsieur ni du chien, hein, bien évidemment. Il est reparti dans sa vie et on n'a jamais su ce qui était advenu, pas plus de lui-même que de son chien. Mais ce jour-là, moi, j'ai vraiment eu l'impression que la vie disait bon, bah, ok, voilà, maintenant tu sais. C'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment un truc qui existe. Sur cette planète, il y a ça qui est possible, quoi, en fait. Et la rencontre avec la constellation familiale, ça m'a permis d'avoir une idée de pourquoi ce chien, il pouvait être porteur. Si ce chien, je le place comme un représentant dans la constellation familiale, un représentant d'un des individus de la famille, à ce moment-là, bah, ces symptômes deviennent totalement en lien avec le système familial et on a une, entre guillemets, explication. Et en tout cas, étant devenue praticienne en constellation familiale, un moyen de résoudre la problématique et de la résoudre à sa racine.
Et ça, c'est important de traiter justement le problème à la racine et pas en surface.
Ben, disons que en tant que véto, c'est ça notre métier, c'est un vrai métier de Sherlock Holmes. Hein. C'est déjà d'essayer de trouver qu'est-ce qu'il peut y avoir. Hein. On dit bien, le chien vous raconte rien. Bon, les propriétaires s'en chargent quand même hein, de raconter des choses. Mais et puis. Les nourrissons et les gens Alzheimer ne racontent pas grand-chose à leur médecin non plus. Hein. Mais on est vraiment comme un détective à essayer de rassembler tous les symptômes qu'on a là, d'en faire un tout pour arriver à comprendre de quoi il est question et qu'est-ce qui peut bien se passer à l'intérieur du corps qui permet et comment on va pouvoir faire évoluer ce truc-là. Et puis, bah, alors, c'est vrai qu'il y a de nombreux cas où les choses se passent assez simplement. Hein, il y a une petite plaie, on va mettre un cicatrisant dessus et puis éventuellement, pourquoi pas, des antibiotiques. Bon, il y a quelques recettes homéo qui marchent très bien. Mais s'il y a quelque chose de plus profond ou quelque chose de récurrent, c'est-à-dire un animal qui se blesse toujours au même endroit, là, ça va interpeller autre chose. Et en tant que véto, ben, à un moment, on est un peu coincé avec ça. Alors, l'ostéopathie, hein, toutes les techniques énergétiques, hein, au sens large, permettent déjà de faire avancer. Hein, et quelquefois, ben, on bute vraiment sur un truc qui coince. Et c'est là où la constellation peut vraiment prendre le relais.
Et concrètement, comment la constellation animale peut-elle permettre de révéler la résonance entre la pathologie présentée par l'animal et les problématiques vécues par son ou ses gardiens? Quel rôle l'animal joue-t-il dans le cadre de cette approche?
Ce que l'animal représente ou présente,
Oui.
c'est des symptômes. Et en fait, quand on est constellatrice, dans le travail en groupe, hein, bon, dans le travail en individuel, on est sur les mêmes façons de faire, mais bon, il y a d'autres approches puisqu'on n'a que deux interlocuteurs qui sont là. Mais dans le groupe, chaque individu qui est en place de représentant va ressentir dans son corps des choses, hein, des sensations corporelles qui peut-être des sensations qu'il connaît déjà, hein, mais qu'il n'avait pas ce matin en arrivant dans le groupe. Peut-être quelque chose qui le dérange en permanence déjà depuis des mois, mais par intermittence, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout le temps sensible à ce truc-là. Et là, depuis qu'il est là, eh bien cette sensation-là, elle est vraiment très intense. Et puis quelquefois des sensations qu'il ne connaît pas. Des impressions étranges. Il y a une autre personne qui est là devant lui. Les représentants ne savent quasiment rien, hein, de l'histoire des personnes qu'ils représentent. Ils savent simplement que bon, moi je représente la grand-mère, toi tu représentes le grand-père. Et en fait, depuis que le grand-père est là à côté de moi, mais j'ai froid partout, c'est terrible, j'ai envie de m'éloigner de lui, je suis très mal à l'aise, ça me donne envie de vomir. Il peut y avoir des sensations comme ça, alors que cette personne, on la connaît pas du tout, ou peut-être même on la connaît très bien, c'est notre ami, un ami très cher. Hein, il n'y a pas d'explication rationnelle à ces sensations-là, si ce n'est de les rapporter à la personne que l'on représente. Et pour l'animal, on a la même chose, c'est-à-dire que l'animal, il se met dans ce champ énergétique, et les symptômes qu'il va présenter, qui peuvent aller jusqu'à des symptômes physiques, mais en constellation familiale, on peut tout à fait aborder une vraie pathologie pour un humain. Mmh. Non, on peut travailler un cancer avec cet outil-là. Non, et donc avec nos animaux, ben de la même manière, sachant que ben finalement ils sont représentants de quelqu'un. Mmh. Et ça fait partie des choses que intuitivement, avant d'avoir rencontré vraiment la constellation, j'avais déjà posé à mes clients quelquefois. Je me souviens d'une dame qui était venue, elle venait déjà depuis de nombreuses années, et elle vient avec une minette atteinte de tumeur mammaire. Et c'était la troisième fois qu'elle nous amenait une minette atteinte de tumeur mammaire. Elle avait déjà dû faire euthanasier les deux autres. Et là, elle était désespérée, cette dame. Et moi, j'ai eu envie de lui dire, écoutez, je crois que il faut que vous la remerciez, parce que et que vous preniez une minette après, parce que la prochaine fois, peut-être ça pourrait être vous. Alors c'était peut-être un peu prétentieux, hein, de dire ça, parce qu'à l'époque j'avais pas tous les outils pour accueillir cette dame avec sa difficulté. Ouais. Mais ça a été vraiment un ressenti que la constellation valide complètement, quoi, en fait.
Et justement, dans quel cas peut-on recourir à la constellation animale, et comment s'intègre-t-elle au suivi médical de l'animal?
Alors, dans quel cas, je dirais, dans beaucoup de cas. C'est encore une fois peut-être un peu de l'excès. C'est toujours pareil, quand on a un outil qui fonctionne bien, bon, on a envie de l'utiliser tout le temps.
Bien sûr.
Et puis aujourd'hui, hein, maintenant, ça fait depuis 2009 que j'ai arrêté la pratique de l'art vétérinaire au sens classique. Effectivement, je crois que Sans la constellation animale, je me sens un peu démunie. Bon, il me reste quelques bribes de soins de base, mais c'est l'approche qui me vient spontanément, bien sûr. Par contre, ce qui est intéressant, c'est surtout quand il y a des pathologies graves, récurrentes. Alors récurrente sur le même animal, hein, un animal qu'on va traiter pour des diarrhées à répétition, et puis on expérimente toutes sortes de choses. Souvent on commence par l'allopathie, et puis ben, l'allopathie n'en vient pas à bout. Alors on trouve quelqu'un qui va faire de la phyto, et puis on essaye avec ces techniques-là, avec des fleurs de Bac, avec des huiles essentielles, avec plein de choses, et puis ben ça dégage pas, hein, il n'y a pas moyen que cet animal se remette à aller bien. Et là, pour moi, clairement, il y a un verrou à faire sauter, hein, et le verrou, pour moi, il est du côté des humains. Et puis, ce qui est aussi possible, c'est lorsqu'on a eu avec un animal une pathologie qui a pu l'entraîner vers la mort éventuellement, et que on reprend un autre animal et que ce second animal se met à sortir les mêmes symptômes que le premier. Là, il y a pour moi clairement des questions à se poser, et la constellation animale peut vraiment permettre d'apaiser tout ça, quoi, en fait, hein. L'objectif, c'est que on va accompagner les humains à résoudre leurs problématiques d'humains. Et de fait, ben, comme on le disait tout à l'heure, on va finalement déraciner la pathologie, on enlève la racine principale, et donc il y a tout lieu de penser que l'animal va aller bien. Et comme je dis souvent, le plus incroyable, c'est que effectivement, c'est ce qui se passe.
Et quel bénéfice peut-on tirer de la constellation animale, non seulement en tant que gardien, mais aussi dans la relation humain-animal?
Alors, ben, en tant que gardien, évidemment, on va avoir un animal qui va mieux, non? Parce que finalement, quand on est une personne humaine et que on a un animal et qu'on l'emmène chez son vétérinaire, on demande au vétérinaire qu'il nous aide à ce que l'animal aille mieux. Ce qui fait que le fait que le véto vous dise oui, mais peut-être ce serait intéressant que vous penchiez un peu sur vos problématiques personnelles. C'est pas forcément simple, hein, comme démarche. Alors ça peut être une démarche d'ouverture aussi pour certaines personnes, hein. Ça peut être un petit pas, hein. Peut-être qu'il faudra commencer par lire mon bouquin pour se dire oui, bon, d'accord, c'est peut-être pas aussi bizarre que ça en a l'air. Et puis le bénéfice dans la relation à l'animal, bah, c'est vraisemblablement une montée en gratitude par rapport à la présence de cet animal. C'est se rendre compte que bah, qu'il est là aussi pour nous protéger, hein, parce que finalement, moi je disais propriétaire, hein, de mon temps. Aujourd'hui on dit gardien, mais gardien, hein, en plus les chiens, en principe, c'est eux qui sont gardiens, c'est pas les propriétaires.
C'est vrai.
Donc, bon, je ne sais pas si la terminologie juste a déjà été inventée ou pas. Il y a une autre dimension, effectivement, dans cette idée de gardien. On essaye de dire que il y a moins de mainmise sur, mais en fait, oui, on peut être gardien de troupeau de moutons, c'est vrai, non? Et là, c'est très juste, effectivement. Après, on se rend compte que finalement, nos animaux, ils sont vraiment là pour prendre soin de nous. Et sur cette planète, la planète est là pour prendre soin de nous. Et je crois qu'il y a juste à prendre conscience de ça, en fait. Parce que la planète, elle va très bien se débrouiller quand on aura disparu, hein. Et bon, qu'elle se réchauffe, qu'elle se refroidisse, que je ne sais quoi, qu'elle soit très polluée, même. Il suffit de voir ce qui s'est passé pendant un mois de confinement. Oh, hein, ça a reverdi, hein, le ciel était devenu tout bleu, etc. C'est très incroyable. Et il y avait plein d'animaux sauvages qui se sont retrouvés dans les villes. Donc, moi, je me dis, la nature, elle va se débrouiller très bien, même si on lui laisse plein de détritus, d'immeubles, de plein de choses partout. En 50 ans, on ne trouvera plus rien. Par contre, bah effectivement, je pense que c'est nous, les humains, qui avons besoin d'apprendre à prendre soin de nous, les uns les autres, peut-être, mais entre nous et nous, déjà, non, d'apprendre à prendre soin de soi. Et je crois vraiment que découvrir cette dimension-là de la relation avec l'animal, c'est apprendre que effectivement, quand je prends soin de mon animal, c'est finalement de moi que je prends soin.
Très juste. Alors, quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange?
Alors, comment conclure? Je crois que je vous ai dit déjà pas mal de choses, hein, quand même, effectivement. Peut-être finalement, alors c'est vrai que tout ça est posé dans ce livre, hein, que vous avez évoqué, L'animal guérisseur de la famille, qui est paru cette année aux éditions du Souffle d'Or, et j'en suis très fière et très reconnaissante aux éditions du Souffle d'Or. Et mon objectif finalement, c'est de pouvoir partager cet outil. Alors, avec le livre, c'est déjà faire connaître son existence, et puis pouvoir faire connaître à d'autres les bases, hein, ce que j'appelle les clés de la constellation animale. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas, peut-être un jour je me sentirais de former des constellateurs animaliers. Bon, c'est tout un cursus de psychothérapie, hein, en réalité. Et franchement, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce soit ça qui m'anime. Par contre, synthétiser en quelque sorte des clés, bah, je l'ai fait. Et l'objectif, c'est de les transmettre à des professionnels qui savent déjà se connecter avec des animaux, hein, de façon à ce que eux, à certains moments, d'ailleurs, ils s'en rendent compte. Aujourd'hui, c'est pas une rareté de dire que l'animal a les mêmes symptômes que son propriétaire, que y a une relation, hein, qu'il y a là que l'animal est miroir de l'humain. Hein, ça, mon confrère Olivier Grandry, il avait déjà écrit dans un bouquin du même nom. Mais pouvoir faire basculer, débloquer finalement, hein, cette compréhension, permettre que ça aille vers plus de paix pour tout le monde. Ben, aujourd'hui, je connais surtout la constellation animale comme capable de ça. Donc, c'est ça que j'ai envie de transmettre, hein. Il est vraisemblable que ça se rapproche beaucoup, peut-être totalement, je n'ai pas encore exploré la question assez profondément, de ce qu'on appelle les thérapies quantiques. Ce qui est relativement logique, puisqu'en fait, hein, on l'évoquait tout à l'heure, il y a ces modifications de l'ADN. Donc, on a une vraie modification de la structure, de l'individu. Et donc, a priori, une modification qui est vraiment en profondeur, qui va, de par cette structure génétique, ben, elle va rejaillir sur les descendants et aussi sur les ascendants. Non, alors, sur les ascendants, ils ne sont pas toujours là, mais tous ceux qui ont une communauté d'ADN avec moi vont être impactés par ce changement qui est le mien. Hein, là, je vous renvoie aux bases de la physique quantique, hein, mais je pense qu'on ne va pas développer ça, surtout dans une conclusion.
En tout cas, un grand, grand merci, Catherine, pour toutes ces précisions, ces explications. C'était vraiment très intéressant. Et j'invite les auditeurs, en tout cas, qui aimeraient creuser le sujet, à découvrir votre ouvrage « L'animal guérisseur de la famille » paru aux éditions Le Souffle d'Or. Il y aura le lien sous ce podcast, qui est vraiment, enfin, vraiment hyper intéressant. J'avais déjà fait des podcasts sur l'animal miroir et je trouve que c'est passionnant, en fait, vraiment la relation animal-humain et justement, comme ça peut être une source vraiment aussi pour mieux se connaître, quoi. Et je trouve ça génial. Donc, je trouve ça vraiment chouette, en tout cas, que des personnes comme vous, en tout cas, le mettent en avant parce que c'est, je trouve que ça peut faire évoluer aussi les consciences par rapport, justement, à tout ce qui est lien avec la cause animale pour le coup. Donc, merci.
Ben, merci beaucoup à vous, hein, Sophie, pour cette rencontre, ce partage, hein, et puis, je suis très, très touchée par toute votre, votre reconnaissance, hein, de ce travail qui est le mien et que j'espère bien partager, hein. Déjà, des stages sont déjà en place, hein, bon, on peut les retrouver facilement sur mon site, un peu partout en France. Et si certains de vos auditeurs sont intéressés à organiser un stage quelque part, y compris au-delà de la France, hein, je suis intéressée à me déplacer pour partager tout ça.
Formidable. Un grand, grand merci en tout cas.
Merci à vous. Au revoir, Sophie.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt !